Music and Anti-Fascism, Reflections on the Past and Possibilities in the Present. Join us for a concert July 7th featuring Egyptian Cotton Orchestra, Montreal Free Jazz, Kim Dong-Wong, Free Improv based on Korean traditional music, Skunk Heaven, New York City Noise, on July 7th, 2022, at 9 p.m., La Sala Rosa, 4848 Saint Laurent. For more information on the concert and conference on protest music and anti-fascism, music and antifascism.wordpress.com. This concert, with generous support from Suoni per il Popolo and Popolo Press. This is a CKUT Radio co-presentation.
Bonjour à tous, vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Bon lundi matin, tout le monde, il fait beau, c'est l'été, on est de bonne humeur. Comment ça va, Marc-André Jutras?
Très bien, Monsieur Molina.
Excellent, j'aime ta réponse, j'aime ton regard. C'est le début de l'été.
T'aimes-tu ma voix FM très grave?
Absolument.
Excellent.
Nos auditeurs aiment beaucoup cette voix FM très grave, mais ils aiment aussi la musique reggae qu'on a choisie pour vous ce matin, hein, ce beau lundi matin.
Oui. Hey, ça fait deux fois que je mets ce vinyle-là que je m'étais procuré, The Youth of Today. musical youth avec including, ça l'inclut Pass the Dutchie.
La chanson qu'on vient d'écouter.
Qu'on vient d'écouter.
Pass the Dutchie.
Ouais.
Si on traduit, oups, ça m'a échappé le vinyle.
Pitch le vinyle.
C'est fini, c'est cassé. Pass the Dutchie, si on traduit ça en franglais, qu'est-ce que ça donne, Marc-André?
Bien, c'est parce que j'ai peur de me répéter dans mes anecdotes, mais Pass the Dutchie, c'est des jeunes. Il faut se rappeler, c'est des jeunes d'Afrique du Sud qui ont fait un tube, un carton des années 84.
C'est des enfants, là.
C'est
on s'entend,
enfants,
c'est pas des
c'est
jeunes.
Vraiment...
Oh, ils, ont vrai. Pas, ils ont moins de 15 ans, là.
Exact. C'est 82 pour être exact. Et là, ils font une chanson qui s'appelle Pass the Coochie. Puis le coochie en slang, c'était une cigarette de marijuana.
OK.
Mais là, ils ont changé ça à cause du producteur, whatever. Ils ont fait un vidéoclip, puis ça s'appelait Pass the Dutchie. Parce que de où est-ce qu'il était en Afrique du Sud, c'était les Hollandais qui avaient colonisé cette partie-là de l'Afrique du Sud. C'est une des colonies. Et là, eux, c'était comme genre, on veut changer le gouvernement en place. Il faut s'en mettre dans l'époque. C'est pré-apartheid. Puis tout ça. Fait que c'est ça. Pourquoi je l'ai mis, en plus d'être une super bonne toune, j'avais acheté le 45 tôt quand j'étais TQ, puis que j'ai trippé fort sur eux autres. C'est ma première introduction au reggae, peut-être même avant Bob Marley. Tu sais, c'est vague, là. J'étais TQ. Mais en écoutant la nouvelle série de Stranger Things.
Stranger Things.
Une série pour les tripeux de science-fiction, de bizarre, de film. C'est rendu presque du film d'horreur. Eh bien, on sait qu'ils remettent à la saveur du jour de la vieille musique, comme Kate Bush, qui a un regain d'énergie sur les réseaux sociaux, TikTok, sur Discord. C'est le disque le plus en demande en ce moment-ci.
Ah ouais?
Oh, oui. Pour la toune Rundale, je ne pas trop...
Parce qu'ils la font jouer dans...
Elle a une grande importance dans le film pour le personnage
dans
de
le
Max, dans le récit.
Okay.
Puis la jeune fille, elle écoute sur son Walkman en boucle, la cassette. Et il y a un personnage latino, ça va venir te chercher directement.
Ben oui.
C'est un livreur de pizza avec les cheveux longs. Je vais vous donner, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est comme si le fils de Robert Trujillo, qui joue dans Metallica, tu sais, le bassiste, les longs cheveux noirs, tout ça, musclé. Ben, c'est comme si son fils jouait dans l'émission. Ben, il livre des pizzas, puis c'est comme Surf Pizza, là, les die-hard fans vont m'en vouloir là, de pas avoir les thèmes précis, mais écoutez-le, vous allez le voir. Et il écoute souvent, deux fois dans le show, il écoute Pass the Dutchie.
Okay.
Je dis, hey, c'est l'été, Netflix, je suis en train de l'écouter. Bientôt va sortir la deuxième partie de la quatrième saison.
Okay.
Ils nous tiennent, là, on est comme hook là, avec un hameçon, là, on est accroché. Puis là, il y a deux épisodes qui s'en viennent, un d'une heure, puis la finale, c'est 2 heures.
Okay.
Fait qu'ils savent, c'est les Duff Brothers qui font ça, si je ne me trompe pas.
OK.
Si ma mémoire est bonne. Et si on c'est merveilleux. C'est merveilleux, ouais.
Moi, je suis comme un extraterrestre parce que j'ai jamais écouté Stranger Things.
Pas un
épisode.
Okay.
Je fais partie de cette espèce humaine-là qui suit pas de près les séries sur Netflix.
D'accord.
Mais juste pour la musique, ça me donne envie de l'écouter.
Oui. Non, la musique est tout le temps top. Gun. Puis pour des ticus comme nous autres, ben toi, t'es plus jeune, mais... Il y a deux affaires dans cette saison aussi. C'est que au début de la première saison, c'est comme si tu écoutais les Goonies de Steven Spielberg. Tu sais, c'est des kids, une petite aventurier.
Nanana,
des monstres, tout ça. Deuxième saison, la suite. Troisième, un peu moins aimé. Mais là, les kids ont grandi. Je pense qu'ils voyaient que le public, à un moment donné, allait décrocher s'il restait, s'il plafonnait dans ce créneau-là, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, ils ont décidé d'attaquer dans le horreur. Et même dans le gore.
Oh!
Oui, ça, il s'approche du gore très, très pas pire. Fait que là, à ce moment-là, tu as tous les éléments. Fait que moi, je suis revenu, puis je reviens en force, puis je suis comme accro. Puis je les ai bingés une semaine, parce que là, d'ici une semaine, ça va être la suite qui va apparaître. Mais je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais il y a deux éléments, à part l'intrigue qui est intéressante, c'est qu'il y a un personnage de rocker, comme quand j'allais au secondaire, les cheveux longs, la veste de cuir, le coat de jeans bleu avec les manches coupées, des macarons en avant, une grosse back patch, une grosse patch dans le dos de Dio, Ronnie James Dio.
Ah oui, OK.
Un macaron en métal de Wasp. C'est un rocker. Et comment tu penses qu'ils ont les Duff Brothers puis les scénaristes ont décidé d'appeler ce jeune rocker métalleux-là?
Steve.
C'était pas loin. Ils l'ont appelé Eddie.
OK.
Fait que Eddie, dans Van le métal, ben, exactement, Eddie Van Halen, le guitariste qui est décédé, qui est la référence des guitaristes Guitar Hero à long poil, on peut dire.
Moi, je fais long.
Puis Eddie, qui est aussi le personnage de Iron Maiden, la mascotte, là, l'espèce de squelette mort-vivant. Fait qu'il y a ça qui est super intéressant. Et deuxième chose, j'ai des discussions avec ma fille que j'aurais jamais imaginé avant, parce que ma fille, elle a vu avant moi, elle a bingé, elle a vu en cachette. Et je te dis D&D.
D&D.
D&D?
Ouais. Double D?
Ouais.
Qu'est-ce que ça évoque dans ma tête? Ouais. Ça évoque pas grand-chose. Peut-être une taille de sous-vêtements féminins, mais c'est sûrement pas ça.
Non. Des dés à plusieurs faces.
Ouais.
Ça te dit quoi? Je brasse des dés à plusieurs faces.
Ouais. Poker. Pas poker. La roulette russe. Non plus.
Non.
C'est pas ça. Casino.
Hey, le robot, il est en train de fondre au soleil. Dungeon and Dragons, mon ami.
Ah, ouais, OK. Ouais. C'est quelque chose que je connais encore moins que Stranger Things. Dungeon and Dragons. Oui, ben oui.
Un jeu de rôle. Puis tout ça.
Même qu'il y ait des dés de différentes formes aussi.
Ouais, triangulaire, le losange.
Il y a plus que 6 faces.
Oh, ouais, il y en a qui en a 32. Là.
Fait ouais, OK.
Ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est deux affaires qui viennent chercher le petit cul en moi puis qui te ramènent dans cette époque de l'adolescence. Fait que moi, je pense que ces gars-là doivent avoir à peu près, ça doit être la génération X, puis sont tous allés chercher ces éléments-là pour venir chercher ce public-là. Et les kids, les enfants, les ados, je dirais pas les enfants, mais les ados, parce que toutes les répliques sont sur TikTok, puis la musique, Kate Bush est là-dessus.
Mais ben, l'histoire se passe dans les années 80.
C'est 86 cette fois-ci.
Ah, OK. Ouais, ouais, donc, ouais, c'est sûr que ouais, ça vient te chercher toi spécifiquement, puisque tu as grandi dans les années 80. Parce que moi, je suis né dans les années 80.
Ouais. Donc, va-t-il dire l'année?
Ben moi, je peux le dire.
Dis-le.
Je suis né en 82.
OK.
Toi, t'es né en quelle année?
Je le dirai pas.
D'accord.
D'accord.
Je respecte ton choix.
Ouais. C'est, sinon, mes cheveux vont tomber.
OK.
Et, ben c'est ça. J'avais à peu près juste ça à dire, mais à part The Dutchy Rules, on peut... moi, je pourrais m'attarder sur... Ben, j'en ai déjà parlé du groupe. Moi, l'album, là, il est bon au complet. Fait que toi, ça prend. C'est vrai que t'es nouveau, toi, dans ma. Veux, là. Fait que c'est des heures de plaisir. Là. C'est très geek, c'est une culture très.
T'as débarqué
geek.
De ça jeune?
Ouais, moi, j'ai débarqué jeune, mais okay. les bonhommes, je trouvais ça cool. J'allais dans les places de comics, j'aimais encore acheter des bonhommes. Moi aussi, en achetait, on se les échangeait.
Les figurines.
Puis, les figurines en métal. Ils étaient en métal ou en plomb, puis on les peignait. Fait que ça, c'était notre kick. Plus
donc,
que,
quand
que
tu jouais avec ta petite figurine sur une table.
C'est une table normale, mais dépendant c'était quel les Advance Dungeon and Dragon, il y avait comme un petit, pas un damier, mais une espèce de carte, là, comme un jeu de société, mais c'est très flou, comme je te dis, j'ai pas joué bien ben longtemps, puis j'étais pas le Dungeon Master, fait que j'étais juste un pion dans l'engrenage.
Fait que pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez, ou si vous êtes encore adepte du Dungeon and Dragon. Ouais,
éclairez notre lanterne.
Éclairez notre lanterne et écoutez Musical Youth en même temps.
Ouais.
ça va donner une petite ambiance.
Peut-être si vous faites jouer à l'envers, il y a un message subliminal Reggae. Caché, on ne sait pas.
Peux-tu faire ça avec ta table tournante, toi?
Non, merci.
Je veux des vinyles à l'envers?
Non, c'est pas conseillé, pas sur celle-là. J'ai pas la Cadillac encore des tables tournantes. Hey, j'avais annoncé il y a une couple de semaines le 11e festival de BD de Montréal.
Oui, qui a eu lieu au mois de mai.
Exactement, 27, 28 et 29 mai 2022 sur la rue Saint-Denis à Montréal, entre Guilford et Roy. C'était très cool, c'est une journée qui faisait très chaud. J'étais allé le dimanche et c'était bien le fun. J'ai vu du monde que je connaissais. Il y avait beaucoup d'auteurs qui dédicaçaient leurs bandes dessinées, leurs monographies, leurs romans graphiques, name it. Et il y avait une belle ambiance. C'est comme pas mal une belle journée de printemps-été. Là. Ça, on n'avait pas eu beaucoup à ce moment-là, mais c'était la journée idéale. Et c'est ça. Je trouvais ça cool qu'ils ferment la rue Saint-Denis.
Oui.
Puis moi, je suis pas très style, je vais emmener ma bande dessinée et je veux la faire signer. Moi, je serais plus comme tu rencontres l'auteur random, tu parles avec, c'est cool, mais. Faire un dessin. Je respecte ça, mais c'est pas dans ma culture. C'est la même affaire quand on va à un show. J'ai rien contre d'être. Tu sais, je vois le monde vouloir se faire photographier avec le chanteur, puis tout ça. Puis juste le voir là, puis de voir qu'il est accessible, je suis heureux. J'ai pas besoin de
qui d'une signe trace.
Mon... Ouais, j'ai pas besoin
d'une preuve.
Trace. Ouais, d'une preuve.
Ouais. Mais en même temps, ça fait des beaux souvenirs.
Exactement.
Puis quand tu as dans ta collection de BD, une BD dédicacée par l'auteur.
Ouais. Ouais, c'est un petit vlog, c'est vrai.
Ça peut prendre de la valeur, peut-être aussi.
Ouais, peut-être.
Ouais,
si tu veux. Mais tu sais, s'il est dédié à Nelson, puis moi, je la jette. Ou s'il est dédié à Marc-André, puis je te le donne, c'est un peu, je sais pas, tu sais.
Ouais.
C'est pas. Anyway.
Bref, tu as fait des belles rencontres.
J'ai fait des belles rencontres, merci.
Festival de BD.
Ouais, j'ai vu mon professeur de cinéma de l'Université de Montréal. Philippe Desrosiers, qui avait fait la course Destination au monde, qui avait fait le sexe autour du monde, tout ça, il était là.
OK.
Puis je l'ai reconnu, je l'ai présenté à ma copine, puis super sympathique, super abordable, là. On parle.
Puis il coûte pas cher.
Il coûte pas cher, puis il parle, il tripe bande dessinée, lui, avec, fait que c'était très plaisant. Et j'ai rencontré, et là, je veux pas me tromper, c'est, j'ai vu... Cyrus, qui est un auteur de bande dessinée. Et c'est ça, là, j'ai vraiment peur de me tromper. Là, mon Internet ne fonctionne pas. Mais un auteur qui a écrit la bande dessinée sur un pari pour Dallaire. Dallaire, c'est un peintre québécois des années 50-60, un peu avant les... oh là là, je m'enfonce là, dans un marais...
Les plasticiens.
Non, les... tu sais, Bordure, tout le refus global. C'est les automatistes, je me trompe pas.
Ça, c'est aux années 50 même.
Oui, c'est ça. Fait cet auteur-là a fait une bande dessinée avec... j'avais les papiers, je vais les retrouver. Peut-être on... Et il me parlait de son implication, en plus de parler de bande dessinée, on s'était déjà rencontrés dans d'autres événements, il me parlait de son implication avec l'école des... Ben, c'est pas une école, là, mais les impatients.
Oui.
Les impatients, c'est une...
c'est un organisme.
Un organisme, une maison d'accueil pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale.
Ouais.
Et cet artiste-là s'implique avec eux depuis plusieurs années à travers le médium de la bande dessinée. Il y en a d'autres, ça peut être la peinture,
ouais.
Ça peut être le tricotage. Lui, son implication, c'est la bande dessinée. Et j'ai rencontré, on va dire, de ses élèves, là, des gens avec qui il a collaboré, et ils me montraient leur bande dessinée. Ils m'expliquaient comment un des participants qui était là m'expliquait comment... lui, quand il dessinait, tous ses problèmes partaient, puis tout ça. Puis je trouvais ça tellement merveilleux parce que t'en fais du dessin, tu fais du stencil, même chose, moi, de la peinture du dessin. Fait que c'est vrai, t'oublies. Moi, j'oublie souvent de manger, de boire, d'aller aux toilettes, de dormir quand je suis à 100% dans un projet artistique.
T'es dans ta zone.
Dans ma zone de confort.
Dans ton flow.
Ouais, exact.
Que certains vont appeler aussi, que t'es dans une zone juste. Qui est juste équilibré entre le challenge, dans le sens que c'est comme juste assez difficile.
Ouais.
Donc, tu es super concentré,
ouais.
Mais pas trop difficile parce que sinon, tu serais découragé. Donc, tu es juste dans ta zone.
Puis, tu es dans une situation que tu sais pas où est-ce que ça s'en va. Dans ta tête, l'image idéale, là, c'est de qu'est-ce que ça peut avoir de l'air, ton image, ton paysage, ton personnage. Mais quand tu le fais, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Ta fatigue, comment tu manies le crayon, plein de choses.
Ouais.
Fait que c'est tout ça. Mais du monde, le savoir qu'il transmet en tant que professeur à ses élèves, c'était merveilleux. Je voyais ses participants. Un m'a parlé, là, c'est Marc-André numéro 2, là, c'est mon double. Fait que là, il me parlait et il me montrait ses dessins. Super. Pour lui, il ne fallait pas que les cases aient aucun espace blanc. Un peu comme les dessins de Julie Doucet, qu'on a déjà parlé.
Ouais, très, très.
Fait que c'est
rempli.
Très chargé, très rempli. Le blanc, c'est pour donner un petit peu de lumière, donner, mais à peine, là, tu sais. Fait que c'était. Puis, du niveau vraiment intéressant. Et il y avait aussi le docteur ou la personne qui chapeaute la maison des impatients, tout ça. Super sympathique, lui, avec. Super accessible. J'avoue que ça doit avoir aidé que je parlais avec Cyrus de façon. Mais c'était merveilleux, là. C'était une super belle rencontre. Et par la suite, on va y aller en musique.
Ouais.
Je vais pouvoir trouver mes repères.
Ah, pendant ce temps-là, tu vas chercher tes notes.
Je vais chercher mes notes. Je suis un peu perdu ce matin, désolé. Et là, on s'en va. Il est tôt, on n'est pas réveillé. Vous entendez peut-être les petits oiseaux à notre porte, mais on y va en hip-hop.
Y'all. I hope you Sometimes I don't want to be bothered. Sometimes I just want a quiet life. Me and my baby, me and my lady. Times I don't want to get into no ball. Times I don't want to be a soldier. Sometimes I just want to be a man. Pull me, say, shine your light on the world. Shine your light.
Vous écoutez Le Lendemain de la Veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter une pièce de Mos Def.
Most Definitely.
Most Definitely de l'album
Black on Both Sides, paru sur Ruckus Record. Super bon album, No Filler. J'adore Mos Def, mais surtout cet album-là. Après ça, c'est un peu plus dilué, mais celui-là, il est solide.
Un album qui date des années 90, à peu près?
Oui. Comme mes amis, ils me niaisent à cette heure, ils disent « Quel col va te poser, Nelson, dans le prochain épisode? » Et là, ben, j'ai pas mes lunettes, fait que vas-y, on a le CD en main, mais c'est écrit très petit.
Et toi, 1999.
Ouais, ça date pas. C'est
mon
pas...
Dieu Seigneur, avant le millénaire. Donc, Mos Def, ouais, un grand artiste qui était... Là, c'est pas une colle parce que tu me l'as dit juste avant.
Ouais, mais je te donnerai pas la réponse, je parlais même pas dans le micro, vas-y.
Ah, OK. Vas-y. Donc là, Mos Def qui était dans un groupe auparavant, qui s'appelait?
Je te dis pas la réponse, je vais le donner. Non, c'était il me semble que c'était Tweb & Cali.
Tweb & Cali.
Je me trompe pas, mais il a fait partie d'un duo avec un DJ assez prolifique. Puis après ça, il est parti solo, mais des fois, il y a des vrais instrumentistes avec lui. C'est un super bon musicien. On va sûrement en faire jouer. J'en réécoute ces temps-ci. En parlant de musique, au festival que je vous parlais de la bande dessinée qui est passée, mais qui a lieu à chaque année au mois de mai, fait que l'année prochaine, ça serait la 12e année, j'ai vu Jean Seb. C'est un drummer, c'est un musicien, et je marchais dans la rue et il y avait une musique d'une fanfare.
Okay.
Et là, moi, tu me connais, fait que j'ai arrêté, j'ai écouté la musique et j'ai reconnu le drummer. Et il jouait, fait que je ne l'ai pas dérangé, tu sais, mais ça aurait pu être mon style. Mais on s'est reparlé après ça sur les réseaux sociaux. Puis j'ai dit, ah, je t'ai vu au festival de la bande dessinée, tout ça. Puis il faisait une tune d'Herbie Hancock sur Headhunter.
Oh.
Puis il faisait une autre grosse tune. Il faisait des grosses tunes avec une section de cuivre. Puis lui, il y avait un petit kit de drum qui m'a vraiment impressionné. Puis c'est là que la discussion est partie. Fait que c'était, tu sais, du Headhunter, c'est très funky. Fait que ce drummer-là, il joue avec Franz dans le ska Sound System. Il joue avec la fanfare les Van Ornies. Et son groupe de funk, ça s'appelle Funk Vinyl Groove. Fait que, en plus d'être un travailleur, un head IT dans une compagnie montréalaise très connue dans les effets spéciaux.
Ah ouais.
Fait que c'est quelqu'un de très...
très occupé.
Très occupé, oui, c'est le mot, c'est exactement le mot. Et son groupe de fanfare, c'était vraiment impressionnant. Et il y avait une, il s'est fabriqué avec un de ses collègues. Il m'a même envoyé les photos. Là, c'est sûr, on est à radio, c'est dur. Moi, je t'ai montré à l'instant. On a eu la discussion qu'on a déjà eue. Il s'est fait une valise qu'il peut transporter, puis qui se sert de bass drum. Il s'emmène un petit snare, une cymbale ou deux, dépendant de ce qu'il a joué, j'imagine, un hi-hat, et monsieur est parti. Oh. Il peut drummer n'importe où. Fait que là, moi, j'ai dit, hey, ça m'intrigue ton affaire. J'ai dit, j'ai vu le documentaire de Guinadon, là, on parle de ça.
Ah, oui, oui, oui. Donc, un ensemble de percussions qui est mobile.
Exactement.
Portatif.
Et non, il se les fait faire par mesure par un de ses amis. Regarde, je te montre les photos, un ébéniste. Regarde comment c'est merveilleux. Puis là, moi, j'ai fait la okay. joke. J'ai fait
c'est vraiment comme une vieille valise en bois. Là.
Exactement.
Un bel objet, en tout cas.
Oui, un bel objet. Il m'a envoyé des photos. Et là, je l'ai fait rire. J'ai dit, regarde, c'est un réalisateur qui fait son drum. C'est George Lucas. Ah, le oui, monsieur, il a des lunettes et une barbe blanche, grise. Et c'est George Lucas qui est en train de faire son drum. Dans sa valise. C'est merveilleux. Fait que,
depuis qu'il a vendu les droits à Disney, ben, il fabrique des drums.
Oui, il s'est trouvé une petite sideline.
Pour passer le temps. C'est déjà lors de la pause, Marc-André. Veux-tu terminer avec autre chose avant de...
Non, je vais revenir. J'ai encore des choses à dire sur la bande dessinée.
Excellent.
Après la pause.
On regarde ça pour après la pause. Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90.3
FM.
À tantôt.
Yeah.
Vous êtes de retour au lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Mon nom est Nelson, je suis avec Marc-André. Avant la pause, on parlait du festival de la BD qui a eu lieu au mois de mai dernier à Montréal, sur la rue Saint-Denis.
Oui.
Marc-André, tu nous racontais que tu avais fait des très belles rencontres.
Comme toujours.
Comme toujours, notamment un George Lucas qui fabrique des drums portatifs. Un artiste...
Chewbacca qui sert de tapis de douche.
Et aussi un artiste BDS
ouais, ben c'est
fabrique,
ça. Ouais.
Qui travaille avec les Impatients.
Oui, mais je fais un shout-out parce que Un pari pour Dallaire, la bande dessinée, je l'ai lu, est fantastique. En plus d'être biographique sur un artiste québécois que je regardais de loin, que j'avais vu dans des musées, qui me fascinait, mais que je ne connaissais pas. Tout son background en lisant la bande dessinée. Vous n'avez pas besoin de vous taper un cours d'histoire de l'art, pas besoin de lire la biographie. Un pari pour Dallaire, qui est écrit par Marc Tessier, qui est paru aux éditions de la Pastèque en 2022, qui comporte 120 pages et qui est illustré par nul autre que Cyrus, un grand bande dessinateur, illustrateur du Québec qui a fait ses preuves 21 fois. Et super sympathique, si vous le voyez, il y a tout le temps une jasette et des choses intéressantes à dire. Moi, je vous recommande de lire cette bande dessinée-là et je vais leur mettre de la pression, je vais leur envoyer un scoop. Ils sont en train de travailler ce tandem-là sur un autre bande dessinée d'un autre artiste québécois.
Fait que peut-être. Donc, une autre biographie sur un autre artiste non-visuel?
En non-visuel, fort probable.
OK.
Parce que, je vais juste vous lire vite, c'est quoi? C'est que Dallaire, là, c'est un jeune peintre prodigue qui avait étudié chez les Dominicains, c'était des religieux à Ottawa. Il avait été boursier du Québec pour aller à Paris étudier. Puis quand il est allé étudier à Paris, comme ses contemporains, Alfred Pellan, Paul-Émile Bourdieu, bien, Jean Dallaire, il débarque en France juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Puis il est arrêté par la Gestapo, il fait même de la prison, il est séparé de sa copine. Fait que ça a été assez rough, mais quand il est revenu en force. Et moi, je vais toujours me souvenir, dans le livre, on le voit, on voit quelques reproductions de qu'est-ce que Dallaire faisait. Et il y a une espèce de coq. Si vous allez au Musée des Beaux-Arts, Si je ne me trompe pas, il y a des affiches ou des cartes postales de ça, puis il devrait être exposé là. Je pense que c'est dans la collection permanente. C'est un gros, gros coq de profil. Un peu, un petit côté méchant, des couleurs vraiment chaudes, rouges, oranges. Il y a presque un sang latino, là. Tu sais, il y a un côté, Amérique du Sud comme approche. Puis c'est des très, très grands formats. Fait, moi, ça m'avait beaucoup impressionné. Fait que je vous recommande cette bande dessinée-là, Un pari pour Dallaire. Un pari, là, pari comme en France. P-A-R-I-S.
P majuscule.
Un P majuscule.
Comme la ville. Donc, de Cyrus et Marc Tessier. BD à découvrir. Et tu as fait d'autres rencontres aussi durant le festival de la BD?
Des amis du monde. J'étais avec ma blonde. On chillait. J'ai sûrement vu d'autres mondes. Mais moi, j'ai vu beaucoup de. Hey, bonne question cette journée-là.
Une poutine?
Non. Je sais pas.
Un hot dog? Du ketchup?
Du ketchup. De la relèche et de la moutarde. Hey, en parlant de ketchup, mon petit coquin, toi.
Tu t'es lancé la poque.
Tu m'as lancé la poque, vous allez voir le lien. Si je te. Ben là, je peux même plus te poser de questions, tu sais déjà. Hey, si je te dis Michel risque.
Il risque quoi?
Il risque quoi? Il risque bien des affaires. C'est le personnage de bande dessinée québécoise le plus sympathique, mais le plus anti-héros. Qui ne peut pas exister.
Okay.
Ça, c'est un personnage qui a été créé par un tandem scénariste-dessinateur de Godbout et Fournier. Eux, là, c'est les RG du Québec. Fait que là, on
en deux personnes.
En deux personnes, oui. Ça, là, j'aurais dû en parler dès le départ. Là. Ça, là, notre bande dessinée au Québec, là, la pierre de fondation, c'est ça.
Ah oui?
Oui. Il y en a eu avant. Mais pour moi, la bande dessinée, quand je l'ai découverte, j'ai connu les Belges, tout ça, les Astérix, les Lucky Luke, les Maurice, tout ça. Mais au Québec, chez nous, mes parents, on avait la revue Cros.
Oui.
Et dans la revue Cros, C-R-O-C, il y avait toujours des pages de bande dessinée. C'est une revue de blagues, un peu comme... Safarir par la suite, tout ça, ou aux États-Unis, le fameux magazine Mad.
Ouais.
Mais en plus d'être une revue humoristique, il y avait de la bande dessinée. Et le tandem Godbout-Fournier, eux, ce qu'ils devaient faire, c'est produire de 2 à 4 planches, c'est-à-dire 2 à 4 pages par numéro qui par sortait, mois. Qui était mensuel, merci. Et fallait que ça. Et là, ça se suivait, mais. C'était comme une scène avec une montée puis une descente. Puis dans l'autre épisode, ben c'était la suite de ce qui se passait, mais c'était presque des histoires indépendantes. Mais okay. Si tu les mettais tout ensemble, ça fait ce que j'ai entre les mains, ce qui a paru par La Pastèque. Là, j'ai l'intégrale numéro 2. Il y a eu le 1. Et là, c'est Michel Risque, l'intégrale numéro 2. Comme je disais, le scénario, c'est souvent Réal Godbout et Pierre Fournier. Et le dessin, c'est Réal Godbout. Et là, on voit l'historique du personnage, comment il a été créé, tout ça, dans les différentes revues, comme je disais, Crow, Titanic, des endroits où est-ce qu'ils ont essayé de vendre le concept. Et là, là, il y a 3 albums dans celui-là. Dans le dernier, dans le dernier intégral. Ce deuxième volume reprend l'histoire suivante. Cap sur Popoun, qui est sa blonde. Le droit chemin et Destination Z. Et là, tu suis les aventures de ce héros qui n'en est pas un, qui subit les aventures, qui se retrouve en Colombie, qui se retrouve aux États-Unis, qui suit son oncle Ludger Risque dans des histoires, dans des business catastrophiques, une espèce de poulet free Kentucky, mais différent, en plus cheap. Okay. Fait, il embarque tout le temps dans les délires de son oncle, qui essaie d'y trouver des jobs, il tombe dans le cirque, il fait à peu près tous les métiers du monde. Travaille dans une chose nucléaire. Il se déguise en Père Noël pour donner des cadeaux l'hiver. Fait, mais c'est du gros n'importe quoi, mais c'est très drôle, c'est très loufoque. C'est la ligne claire. Il y a une continuité avec RG, mais ouais. C'est un peu plus vers les 77 ans que les 7 ans, parce qu'il y a tout le temps des jeux de mots à double sens, un petit peu de nudité. Il y a un personnage, quand il est en Colombie, à la place de s'appeler Pablo Escobar, il s'appelle Raúl Escobar. Et Raúl Escobar, il kidnappe Popoun. Qui est la copine de Michel Risque. Et Michel Risque part à l'aventure pour la délivrer d'un grand baron trafiquant de drogue. Et là, les aventures commencent et c'est très, très loufoque. Ces deux auteurs-là, qu'est-ce qu'ils aiment beaucoup, c'est tous les clichés, toute la pop culture américaine,
okay.
Autant québécoise, canadienne, américaine, et ils s'en moquent comme ça se peut pas. Puis ils font tout le temps des clichés sur des clins d'œil à des personnages historiques, mais en changeant un peu le nom, mais on sait. On sait très bien à qui ils font référence. Fait que là, tu sais, il y avait tout le temps des petits sous-titres comme « Tout le monde a une maman ». Puis là, tu as un autre titre « El Condor Pasa », quand il est en Colombie. Et moi, ce que j'aime bien gros, quand il est en Colombie, il se fait recruter par une espèce d'impresario. Puis il dit « Hey, tu vas faire un lutteur, puis tu vas faire un lutteur du Nord. » Fait que ça va être comme le Canadien bûcheron. Fait qu'il met une tuque sur la tête, une chemise à carreaux. Puis là, il est en bobette, puis il s'en va lutter. Puis il lutte contre le Condor, qui est comme la vedette locale de la lucha libre. Mais là, un moment donné, il va prendre sa douche au vestiaire et il fait glisser un savon.
OK.
Et il fait tomber un savon, pardon, et Condor passe par là et il tombe sur le savon, puis il se brise en deux, là, il est barré.
OK.
Mais là... Condor, c'est un lutteur masqué. Fait qu'on sait pas qui se cache derrière le lutteur. Fait que là, à cause de cette bêtise-là, Michel Risse doit enfiler le costume d'El Condor, puis de continuer la lutte, d'aller se battre, faire des spectacles. Mais le Condor a aussi une vocation d'aller dans les orphelinats, aller dans les bidonvilles.
Okay. Mais
dans les bidonvilles, il y a du monde qui le déteste, dont des petits jeunes, là, qu'est-ce qu'on appelait les piranhas. Là, c'est des jeunes, des bandes de jeunes organisées qui détroussent tout le monde. Bien, eux, ils décident d'aller kidnapper El Condor. Le lutteur. Fait que c'est toutes des niaiseries comme ça qui sont super sympathiques. Le droit chemin, il se moque de la religion. Je m'appelle Jéroboam. Michel Risque, il rentre dans une secte américaine de preacher télévangéliste. Fait que tu as tous les sujets qui étaient forts aux États-Unis, là, avec Jim and Tammy Baker. Tu sais, tous les télévangélistes à télé qui disaient « Envoyez-moi votre argent, puis vous allez aller au ciel. » Puis c'était vraiment populaire aux États-Unis dans ce temps-là. Puis tu sais, Jim and Tammy Baker, ça a pleuré tout le temps, puis avait comme trois couches d'épais de maquillage. Puis là, ça coulait. Puis là, c'était filmé en gros plan. Puis là, c'est comme le monde donnait plus d'argent parce que là, Jim implorait le monde. « Donnez de l'argent, voyez qu'est-ce que ça fait. Oh, » Puis il vivait là... dans des châteaux. On connaît l'histoire là, des télévangélistes. Fait que ces auteurs-là québécois, je vous les recommande. Et ils ont ouvert la porte à un autre personnage. Et là, tu as nommé le nom tout à l'heure quand je t'ai demandé.
Ah ouais?
Je t'ai demandé comment il pourrait s'appeler tel personnage. Ben, il s'appelle Steve Red Ketchup.
Steve Red Ketchup.
Ouais.
Ou Red Ketchup.
Ou Red Ketchup, pour les intimes, mais son nom, c'est Steve. Ça, là, c'est le personnage qui est le némésis, qui est l'ennemi à Michel Risque.
OK.
C'est un personnage secondaire qui est dans bande dessinée, qui apparaît au fil des histoires de Michel Risque, mais qui prend tellement de place que le public en redemande et préfère... C'est comme si les gens préféraient Darth Vader que Luke Skywalker.
Ouais, ouais, ouais.
Un peu.
Ouais.
L'analogie.
Ouais.
Fait que là... Il devient, puis là, je pèse mes mots, mais c'est vrai, il devient, puis j'en ai pas parlé avant, puis ça me dérangeait. Fait que là, j'ai l'occasion, la porte est ouverte.
Vas-y, on t'écoute.
C'est le personnage culte de la bande dessinée québécoise qu'on a vu dans Crow, qu'on a vu dans Titanic, dans Safari, qui a été créé par Al Godbout, Pierre Fournier, bien entendu. Et qu'en 2018, là, je te lance des punchs, là, en 2018... Je te dis Yves P. Pelletier,
oui.
RBO, il voulait faire le scénario et il voulait que Martin Villeneuve, un réalisateur, qui voulait l'adapter, fasse un scénario original en live avec des comédiens.
OK.
Des vrais personnages, un comédien, là, genre, admettons, Michel Côté fait Red Ketchup. Je dis un exemple comme ça.
Ouais.
Ouais. Fait que ça n'a jamais eu lieu. C'est comme un work in progress. Puis tu sais, on ne recule pas là, 25 ans, là, 2018. Là, on sait qu'il y a eu la COVID, un scénario où ça peut être refusé une première fois. Fait que ça a été comme, on va dire, tabletté.
OK.
Là, j'ai eu un gros buzz quand à l'hiver, à un moment donné, j'ai eu la rumeur que Télétoon, la nuit, allait sortir en cartoon à l'hiver 2023, fait que c'est l'année prochaine,
ouais.
20 épisodes de 30 minutes de Red Ketchup en dessin.
En dessin animé.
En dessin animé, réalisé. C'est le scénario, il n'y a pas de Yves Pelletier là-dedans. Encore Martin Villeneuve.
OK.
Martin Villeneuve, tu sais qui?
C'est non, ça me dit rien.
C'est le frère d'un autre qui a fait un petit film qui s'appelle Dune.
Ah, pour vrai?
Oui, c'est son frère.
Le frère de Denis Villeneuve?
Il est comédien, réalisateur, peut-être scénariste. Il est dans le milieu lui aussi.
OK.
Ouais.
Wow.
Ouais.
Beau scoop, ça, Marc-André.
Beau scoop, hein?
Primeur sur Primeur. Les ondes de CKUT à la maison.
Oui.
Et écoutez, le lendemain de la veille plus fréquemment.
Oui, et envoyez-nous notre argent. Nous ne sommes pas Jim and Tammy, mais bien Nelson et Marc-André. Et chaque sou va être pour la concrétisation de notre église du rock and roll.
On est les informateurs du monde de la BD.
Exactement, et du rock and roll. Fait que là, il va y avoir un Red Ketchup, agent du FBI, qui est albinos,
ouais.
Qui a les cheveux en brosse, roux, rouge, roux. Et qui enquête sur tous les criminels inimaginables à travers la planète. Les dictateurs africains, les Raoul Escobar, les trafiquants de ci, de ça, les Russes, parce que eux se sont amusés beaucoup avec la guerre froide.
Oui, parce que à l'origine, ces éditions-là de Crow, c'était dans les années 80.
Oui. Puis en 84, Reagan, Gorbatchev.
Oui. C'était encore la guerre froide.
Exactement. Mais là, lorsqu'il enquête sur Raoul Escobar, il découvre la drogue et devient polytoxicomane, le rendant invulnérable, violent, un danger pour la société, un véritable casse-tête pour ses patrons du FBI aux États-Unis. Fait qu'il l'envoie tout le temps le plus loin possible, en Sibérie, en Afrique. Il dit, il va, puis il donne pas de ressources. Il dit, il va se faire attaquer, il va se faire dévorer, il reviendra pas, il revient tout le temps. Tout le temps. Puis là, aux grandes dames de ses boss. Fait que, qu'est-ce qui est bien, c'est que la Pastèque a fait la réédition des Michel Ris, mais ils ont commencé depuis 2007 à faire la réédition des Red Ketchup.
OK.
De la série individuelle juste de Red Ketchup qui était sortie sur Dargaud, la maison d'édition française.
OK. Wow.
Fait que c'est ça. Red Ketchup va fêter ses 40 ans cette année.
Quand même?
C'est quand même. Comme toi.
Hey, un adon, toi.
Ben oui.
Donc, 1982 était la première apparition de Red Ketchup dans une bande dessinée, c'est ça?
Exactement.
Hey, wow!
Puis là, ils en ont sorti des nouveaux. Le tandem, on continue d'en écrire des nouveaux.
Okay.
Où il y en avait qui n'avaient jamais été publiés. Et ça, moi, je t'invite à les lire. Je les ai toutes lues, ou pas mal. Puis c'est super intéressant. Même dans celui que j'ai, là c'est Michel Ris, mais au début, c'est en noir et blanc. Et là, à la fin, la couleur apparaît.
Comme dans Le Magicien d'Oz.
Exactement.
Over the rainbow.
Over the rainbow, la, c'est de Yellow Brick Road.
Ah, ben ça, c'est une autre chanson du même film.
Okay. Fait que moi, je vous invite à lire du Michel Ris, à lire du Red Ketchup, vous replonger dans un des personnages, les deux personnages mythique de la bande dessinée québécoise. Et là, il va y avoir un comic qui va apparaître sur Télétoon.
Un dessin animé.
Un dessin animé. J'ai très hâte de voir ça. J'ai vu les dessins. Les dessins sont beaux. C'est de voir l'histoire. Il faut que ça soit rock'n'roll. Il faut que ça soit comme la bande dessinée. Il faut qu'il y ait un petit peu de drogue, un petit peu de sexe, un petit peu de rock'n'roll, un petit peu de tout ça.
Un peu de violence. Ouais. Et puis, Télétoon, ça, c'est un poste de télévision, hein, c'est ça? Il faut avoir le câble.
Il faut avoir le câble, oui. Ça, je vois un petit problème.
Sinon, sur Internet, possiblement?
Oui.
Ou certains sites...
Ouais. On va se croiser les doigts.
De streaming.
Oui.
possiblement.
Possiblement.
Parce que j'ai pas envie de m'abonner à Télétoon juste pour écouter Red Ketchup. Là.
Non, mais ça va être saignant, moi, je pense.
Ah ouais? Ouais. Saignant style ketchup.
Ouais, bon, ben, ketchup. Faut que ça reste de même. Ils peuvent pas le dénaturer. Là. Puis c'est pour ça que c'est Télétoon la nuit, là, j'imagine.
Ouais. OK, Il
faut qu'il y ait un petit côté humour crush. Là. Puis tu sais, je vais te passer à la bande dessinée. On va écouter de la musique, là, puis ça va nous donner d'autres...
Ah, on va faire ça?
Non, on fait ça.
On va lire la bande dessinée pendant que vous, à la maison, vous écoutez de la très bonne musique. On vous prépare une chanson que vous... Écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Marc-André, on vient d'écouter une chanson du groupe Le Nombre.
Exactement.
Et la pièce?
S'appelle, bonne question, Laissez venir à moi les grandes brunes.
Les grandes brunes.
Oui.
C'est ça?
Oui.
Excellent groupe d'un album qui date de 2002.
Sur Blow the Fuse, Bound Sound. Ça rockait. C'est comme ça que le rock québécois devrait sonner tout le temps, dans le tapis. Puis là, la pochette d'album, j'aime tout le temps les décrire. Ils sont sur, je ne sais pas si tu te souviens, sur Saint-Antoine, Steve Music Store, le magasin où est-ce que tu allais chercher une guitare, une bass, un drum. Le vieux bâtiment, pas sur Sainte-Catherine, là, en face des Foufs. Ben, il y avait une taverne au coin de la rue. Fait que les gars sont là avec l'espèce de... Tu sais, les fenêtres à carreaux frostés. Fait que tu sais pas s'il y a du monde ou pas de monde en dedans. La vieille enseigne de taverne. Puis les quatre gars sont sur le coin de la rue. Puis ils préparent soit de retourner en dedans, boire de la bière, ou faire un mauvais coup dehors, je sais pas. Mais
fumer une cigarette.
Fait que le nombre, ça rock. ça rockait et ça rock encore. Ils ont 3 albums. Fait que, allez écouter ça. Hey, le temps file.
Fil filon.
Beaucoup de choses qui s'en viennent. Ben, je vais vous l'annoncer, puis peut-être j'aurai plus de temps la prochaine fois. Il y a le Montreal Comic Con qui s'en vient du 8 au 10 juillet 2022. Fait que je ne sais pas quand l'émission va jouer, ça va passer ou non. Mais
avant le mois de juillet.
C'est ça.
Juste avant. Ou peut-être pas avant, pendant.
Pendant.
Mais je pense que ça va être correct. Donc le 8 au 10 juillet.
Oui. On a des gens qui vont être là. Ceux qui ne savent pas c'est quoi le Comic-Con, c'est des tripeux de films, des geeks de...
Convention de comics.
De comics.
Bande dessinée,
super-héros, name it. Fait que on va avoir Dave Foley. Si je te dis Dave Foley...
Oui. Je sais c'est qui.
Dis-le.
Je peux le dire, c'est un membre du groupe humoristique Kids in the Hall.
Yes!
Qui a aussi fait de la télévision après.
Ouais, qui est un humoriste, qui est un stand-up aussi, je pense.
Ouais.
En tout cas, dans ces eaux-là.
Comédien.
Un comédien, ouais. Fait qu'il y a lui. Il y a, je te dis, Malcolm McDowell.
Je sais c'est qui.
C'est qui?
C'est pas le fils de Ronald McDonald.
Non.
Mais c'est l'acteur qui jouait dans L'Orange Mécanique.
Et oui. Et dans les chats, là.
Les chats, miaou.
Les chats, il est dedans, en tout cas.
Les chats, cats.
Ouais.
C'est ça?
Moi, pas la comédie musicale. L'espèce de film d'horreur, je t'ai parlé que Cat People.
Oh!
Il est dans Cat People.
J'ai pas vu ça.
Ouais, lui, check-les. Fait que tu l'as en Orange Mécanique. Puis en vieillissant, il fait encore plus peur. Il a tellement une crédibilité puis un regard menaçant. Fait que vous pouvez le rencontrer, lui demander un autographe, moyennement des sous. On a Matthew Lewis, Bonnie Wright, ben du monde de Harry Potter, du monde de Star Trek. Mais en bande dessinée, on a Peter David, qui est pas mal chez Marvel. On a Jim Zub. Et là, je te dis, 4 reptiles qui tripent sa pizza.
Au palais, là, t'es dans mes cordes. Teenage Mutant Ninja Turtles.
Et oui, on va avoir Kevin Eastman, un des deux co-créateurs des tortues mutantes de New York dans les égouts qui font des prises de karaté, des nunchaku et des shurikens. Il va être là pour signer vos comics des tortues ninja.
Ah, c'est cool ça. Puis des fois, ben, c'est pas juste des signatures, ils font aussi des conférences, des discussions, panels.
Ouais.
Donc ça peut être intéressant. On ne sait pas si eux vont en faire. Mais...
Questions et réponses aussi, là, ouais, souvent, c'est ça. Là, qui est bien belle fun. Fait que ça va être du 8 au 10 juillet 2022. Allez sur montrealcomiccon.com et vous allez pouvoir avoir tous les détails et les prix et tout ça pour cette aventure-là.
Es-tu déjà allé dans un Comic-Con, Marc-André?
Non, honnêtement, non.
OK.
Toi?
Je suis allé dans un Comic-Con, mais qui était à Laval.
OK.
Qui était organisé par, je pense, les mêmes organisateurs du Comic-Con de Montréal, qui est comme un mini Comic-Con.
OK.
Parce que celui de Montréal est tellement gros qu'ils ont tellement, ils ont assez de demandes pour en faire un petit durant l'année.
Ah, ouais, OK.
À Laval. Puis oui, je suis allé avec mon garçon et son ami il y a quelques années. Donc, mon garçon était déguisé.
En quoi?
Et en un personnage d'un jeu vidéo que je connaissais pas.
OK.
Demande-moi pas c'est quoi, mais okay. C'est un petit bonhomme avec une tête de squelette puis un hoodie bleu. Puis son ami était déguisé en un autre personnage de jeu vidéo.
Et Papa Nelson, lui?
Moi, j'étais déguisé en Papa Nelson.
Ouais. En Mr. Mom.
Et c'est quand même impressionnant de voir la quantité de gens qui arrivent là déguisés.
Ouais.
C'est sûr qu'il y a des gens aussi qui sont qui font partie de l'organisation, là, qui ont des méchants beaux costumes hyper élaborés, là, comme c'est pratiquement des mascottes. Là.
Qui construisent toute l'année, là, parce que des fois, je vois des artistes faire la préparation.
Ça donne l'impression qu'il y a des costumes qui sont faits de façon professionnelle. Là. Ça paraît pas artisanal, mais tandis que pour beaucoup de gens, c'est effectivement des costumes artisanaux, donc faits à la main, à la maison.
Mm-hmm.
Et c'est impressionnant de voir la quantité de gens qui sont costumés. Mais effectivement, il y a beaucoup de kiosques pour dépenser plein d'argent parce qu'il y a plein de choses à vendre. Des cossins, des toutous, des porte-clés et des bandes dessinées, mais surtout des comics.
Je te crois. je ne t'estime pas là-dessus. Vendu. Fait que allez-y tous déguisés, tout ça. Non, mais ça arrive souvent, par exemple, que je suis à Montréal lors de cette fin de semaine-là et que je vois du monde défiler soit dans le métro ou dans la rue s'en aller là-bas. Là. Je sais pas si cette année c'est au Palais des Congrès. Là. Habituellement, c'est dans ce coin-là. Ouais. Là, mais je veux dire, tu te promènes en ville cette fin de semaine-là, tu t'en vas de toutes les couleurs, là, puis c'est drôle. Puis même des fois, quand c'est même pas. Comme là, au Francofolie, j'ai vu du monde qui était déguisé. Je sais pas si c'était pour une initiation ou un enterrement de vie de garçon ou de vie de fille. Mais il y a du monde qui, je pense, qui sont déguisés.
An anti-fascism. Reflections on the past and possibilities in the present. Join us for a concert July 7th featuring Egyptian Cotton Orchestra, Montreal Free Jazz, Kim Dong Wong, Free Improv based on Korean traditional music. Skunk Heaven, New York City Noise. On July 7th, 2022, at 9 p.m., La Sala Rosa, 4848 Saint Laurent. For more information on the concert and conference on protest music and anti-fascism, music and antifascism.wordpress.com. This concert, with generous support from Suoni Peri Popolo and Popolo Press. This is a CKUT Radio co-presentation.
The following is a previously broadcast program.
CKUTT 90.3 FM.
Another reliable communication channel.
Un, deux, tres, quatre.